BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
Bienvenue dans Les pionniers. Au sommaire cette semaine, le tête-à-tête pour commencer avec un pionnier de la gastronomie. Après avoir été parachutiste, casque bleu au Liban, vigile ou encore manutentionnaire, c'est aujourd'hui un chef cuisinier incontournable, véritable tête de proue de l'innovation culinaire en France. Il est doublement étoilé et est notamment connu pour son approche de la cuisine moléculaire. C'est un hyperactif militant. Il pratique les arts martiaux, il est engagé pour l'environnement, l'inclusion sociale et la réinsertion. Nous recevrons Thierry Marx.
Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Carla Sarantelli, CEO de TripBike, un vélo avec assistance électrique hors du commun. Et Eric Genassia, CEO d'Itshot, la première ménagerie musicale.
Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Thierry Marx.
Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Thierry Marx. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Alors, tu fais partie des chefs français les plus innovants, notamment grâce à la cuisine moléculaire, on en parlera, que tu as défendu quand peu de gens y croyaient en France. Ton amour de la nourriture française se mêle à une passion pour l'Asie, qui s'illustre aussi par ta pratique des arts martiaux et des arts zen, comme le tai chi et le yoga et le judo. Tu mobilises ton amour de la cuisine et du sport pour favoriser l'inclusion sociale, l'insertion professionnelle et défendre les enjeux environnementaux qui te sont chers. Alors tu connais le principe de l'émission, on est là pour aller explorer tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur ton parcours. Alors évidemment, on aura pas mal d'informations sur tout ce que tu as fait, et notamment Rebecca qui viendra nous illustrer et nous informer sur justement ce parcours-là, pour qu'on puisse aller comprendre comment et pourquoi tu as fait les choses, ce que tu as ressenti à ce moment-là, comment un parcours de pionnier, eh bien c'est pas forcément toujours tout simple, et comment on fait pour réussir à avancer. On va donc explorer ton esprit pionnier et se mettre à ta place, comprendre comment tu prends tes décisions. Alors c'est parti, ton enfance, tu es né en 59 dans le quartier de Ménilmontant à Belleville, à Paris, où tu as passé une partie de ta jeunesse. Et à 2 ans, tu traînes devant la boulangerie de Bernard Ganachot. Elle t'inspirait quoi, cette belle boutique ?
Elle m'inspirait beaucoup. D'abord, elle m'inspirait le bon, ça sentait bon. Et je me disais, si quelqu'un qui travaille avec ses mains peut avoir une réussite comme l'était celle de Bernard Ganachot, eh bien, pourquoi pas les métiers manuels, finalement. Ça a dû naître à cette époque-là, dans ma tête.
Donc on voit ici la belle boulangerie, parce qu'effectivement, c'est plus qu'une boulangerie habituelle. C'est vraiment un grand espace qui peut faire rêver.
Quelque chose, là, c'était une très jolie boulangerie. Au départ, ce n'était pas une très jolie boulangerie, c'est devenu une très jolie boulangerie. Et ce qu'on voit derrière, c'était ce qu'on appelait des cités ouvrières. Et ces bâtiments en briques rouges abritaient des ouvriers qualifiés, quelques contremaîtres. Mais c'était vraiment quelqu'un qui avait osé amener dans un quartier extrêmement populaire d'imposer une idée de la qualité et du luxe. Parce que le pain était beaucoup plus cher qu'ailleurs, mais il était exceptionnel. Et j'ai toujours défendu l'idée qu'il n'y avait pas de conflit entre le beau et l'utile, le bon et l'utile, parce que ça rendait les gens heureux, et qu'il n'y avait pas de conflit non plus entre le luxe, finalement, et des fois quelques complexités sociales. Le luxe est tiré tout le monde vers le haut. Je trouvais que cette boulangerie, elle symbolise ça quand même.
Ensuite, tes parents décident de partir s'installer à Bois-l'Abbé, à Champigny-sur-Marne. Et après le collège, on te refuse l'entrée dans l'école hôtelière. Alors, tu t'orientes en mécanique, tu ne restes que 3 mois. Est-ce que tu te souviens de tes pensées à cette période?
Oui, non,
ça fait beaucoup de choses d'un coup.
Je voudrais rectifier un petit peu. D'abord, on nous demande de quitter les petits appartements qu'on avait, qui n'étaient même pas des appartements dans les quartiers ouvriers du 20e, pour nous proposer les mêmes cités HLM dans des lieux où il n'y avait rien, il n'y avait que du béton. Et donc, c'était des appartements plus grands, mais à habitation sociale et à loyer modéré, certes, mais quand même habitation sociale très discutable. Et ensuite, je ne choisis pas de faire de la mécanique générale. C'est-à-dire qu'on me dit, ben non, pour les gens comme vous, issus de ce quartier, c'est la mécanique générale, comme si c'était de fait, par défaut. Et ça, c'est les premières injonctions de l'État, finalement, pour contraindre quelqu'un qui semblerait rentrer dans une case et pas dans une autre. Donc c'est ça qui est discutable. Mais je n'ai pas choisi de faire de la mécanique générale, on m'a imposé de faire de la mécanique générale.
D'accord, tu avais passé ton CAP de pâtissier.
Ouais.
Et c'est bien cela qui va dessiner ton destin, Rebecca.
En effet, en 1978, vous obtenez votre CAP pâtissier, chocolatier et glacier avant de vous engager dans l'armée. Et en rentrant de la guerre au Liban dans les années 80, vous revenez à la cuisine et faites vos armes au sein des brigades du pavillon Le Doyen aux côtés des chefs Deligne et Robuchon. Après un premier poste de chef à Sydney en Australie, vous intégrez le prestigieux hôtel du Cheval Blanc dans le sud de la France, le rendez-vous du tout Paris, à l'époque tenu par Régine. Et après, tout s'enchaîne. Dans les années 90, votre restaurant Le Roquenval reçoit une étoile au guide Michelin. Le Cheval Blanc de Nîmes et les Relais et Châteaux dont vous êtes le chef également. Vous innovez et gravissez les échelons. Et dans les années 2010, vous êtes révélé au grand public grâce à Top Chef notamment. C'est aussi vos débuts au Mandarin Oriental de Paris et de vos restaurants sur mesure qui vous vaudront 2 étoiles de plus au guide Michelin. En 2018, vous prenez vos quartiers au premier étage de la Tour Eiffel avec Frédéric Anton en reprenant le Jules Verne. Et depuis, vous avez lancé 2 nouvelles marques et créé des formations pour former notamment des chefs d'entreprise engagés pour l'environnement.
Exactement,
c'est eh oui, clair. Tout cela est ton histoire. Et donc, Top Chef, Jules Verne, bon, et également, il y a Taïwan au début de
Taïwan, c'est
parcours.
Le début, c'est ma grande chance a été de croiser la route de M. Claude Deligne, qui était le chef du Taïwan. Je me présente dans un restaurant qui s'appelle La Marée, il n'y a pas de poste pour moi. Mais la personne me dit, mais allez voir chez Taïwan, peut-être que. Je pose la question si on cherchait un commis. Le chef me dit oui, vous arrivez d'où ? J'avais déjeuné chez Bernard Loiseau, mais je n'avais jamais travaillé. J'ai dit chez Bernard Loiseau, et il m'a dit, demain matin, vous pouvez
alors,
faire un essai.
C'était une subtilité de langage.
Oui, parce que en fait, j'ai passé mon CAP de cuisinier en candidat libre à l'école Béliard. Et de cette école Béliard, finalement, je suis allé voir en province si je pouvais trouver un restaurant qui ne regarderait pas les déficits de mon CV. Et j'ai rencontré Bernard Loiseau, qui ne m'a pas embauché, mais qui m'a invité à déjeuner avec Georges Pralu. Et j'étais émerveillé par cet homme. C'est-à-dire qu'il était lumineux. Et du coup, il m'a tellement inspiré. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai dit, oui, je suis allé chez Bernard Loiseau. Et comme à l'époque, on ne vérifiait pas trop, il fallait faire ses preuves sur le terrain, Monsieur Deligne m'a donné ma chance et il a continué à m'entourer tout au long de ma carrière. Et Joël Robuchon aussi, d'ailleurs, qui m'a toujours beaucoup aidé, y compris de me trouver cette relation entre le groupe Mandarin Oriental et moi.
Et donc Bernard Loiseau qu'on voit ici sur les photos. Alors on l'a entendu, ensuite tout s'accélère. En 88, tu reçois une première étoile Michelin avec ton restaurant Le Roquenval. Et après seulement un an, tu as reçu ta première étoile.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ?
Ça y est, je fais partie un peu du groupe, quoi. C'est-à-dire que j'arrivais de nulle part, j'avais pris beaucoup de risques pour en arriver là. Quand l'étoile tombe, finalement, vous recevez des dizaines de courriers, on recevait des fax de partout, et ça, j'avais l'impression de faire partie de la famille, quoi, de dire, enfin, il va pouvoir, je vais pouvoir exister et puis me faire une place, finalement, dans cette galaxie des chefs étoilés qui est quand même un silo, était à l'époque un silo assez fermé.
Donc c'est un premier barreau d'une échelle que tu commences à gravir avec beaucoup de dynamisme. Mais tu décides de partir à ce moment-là en Asie, au Laos, en Thaïlande, au Japon. Qu'est-ce que tu allais chercher là-bas et est-ce que tu l'as trouvé ?
D'abord, mon établissement économiquement où j'avais pris une étoile ne tenait pas vraiment la distance. J'avais beaucoup de compétences sûrement pour essayer d'avoir beaucoup de détermination au travail, mais j'avais probablement des lacunes en gestion et en management. Et quand on m'a proposé de partir en Asie, évidemment, j'ai immédiatement dit oui. Parce que d'abord, je ne voyais pas que l'Asie du Sud-Est. J'avais entrevu le Japon et la possibilité du Japon. Japon, judo, je revenais à mes premiers amours, cette passion un peu pour ce pays et l'unité de ce pays, finalement, qui me convenait bien. Et c'était l'opportunité de partir encore une fois.
Alors, tu rentres en France et en 2006, entre 2006 et 2008, tu reçois les titres de meilleur cuisinier de l'année, selon Goemio. A priori, ça veut dire que les gens aiment bien, du coup, venir dans tes restaurants. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Et donc, tu es aussi un cuisinier et un chef engagé pour l'environnement, on en a parlé, pour l'inclusion sociale, pour la réinsertion. En 2012, tu montes le projet Cuisine Mode d'Emploi. Quelle est ta motivation
La motivation, elle est simple. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à montrer un petit peu, d'accéder un petit peu à la lumière de la notoriété, même si cette lumière est futile et elle peut s'arrêter d'un moment à l'autre, je me suis dit, je recevais beaucoup de courriers de gens qui venaient des mêmes quartiers que moi, que ce soit celui de Mille-Longtemps, mais surtout celui des Bois-l'Abbé, des Boulereau. Et moi aussi, j'avais vécu ça, donc... Qu'est-ce que tu peux faire? Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour nous? Qu'est-ce qui a marché pour moi? Ce qui a marché, ça avait été le sport au travers du judo, parce que ça a été un cadre éducationnel qui m'a donné confiance en moi et en même temps qui m'a appris à faire pour apprendre, vu que je n'arrivais pas à apprendre pour faire. Et ensuite, l'artisanat était un moteur d'inclusion qui m'a vraiment aidé. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc on a décidé, d'ailleurs avec une rencontre avec Véronique Carillon, Philippe Carillon et Véronique Colucci, des Restos du Cœur, on s'est dit peut-être qu'on peut créer des centres de formation professionnelle pour des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, avec des accidents de parcours et des formations qui seraient totalement gratuites. La première école est née assez vite, à la date qui a été évoquée. Et puis ensuite, maintenant, on est à 10 écoles dans 10 quartiers politiques de la ville. Et aujourd'hui, c'est 92% de retour à l'emploi. On a fait la même chose avec des écoles du sport, etc. Donc, ça montre bien qu'on peut, avec un peu de notoriété, parce qu'effectivement, je me suis appuyé sur cette... d'abord sur l'envoyé spécial qu'il y avait eu sur mon parcours professionnel, et ensuite sur Top Chef. J'ai surfé sur la vague Top Chef. Et d'ailleurs, M6 m'avait beaucoup aidé, hein, parce qu'à l'époque, je travaillais aussi avec l'administration pénitentiaire, et M6 intervenait... très sérieusement d'ailleurs pour nous aider à monter nos centres. Donc je trouve que ça avait une bonne démarche et je continue à penser qu'une entreprise qui sera durable sera capable de mesurer sa croissance, bien évidemment comme chaque entreprise, mais elle sera capable de mesurer son impact social et environnemental. Sinon ce monde peut devenir quand même extrêmement dangereux et il est déjà extrêmement dangereux.
Alors aujourd'hui tu es directeur culinaire au Mandarin Oriental ainsi que chez Honor. Le restaurant gastronomique engagé, et tu es président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Ce mix entre cuisine et engagement, c'est un peu le fil directeur en fait, de ta vie, enfin en tout cas à partir d'un certain moment. Et donc c'est le moment pour nous d'entrer dans les coulisses de ces mondes. Alors tes passions... et notamment ta passion, c'est le monde de la gastronomie, bien sûr. Et dans ce domaine, tu es considéré par beaucoup comme un précurseur. Le Times a même un jour titré que l'innovation culinaire n'est plus en France, elle est ailleurs. Et tu es connu en France pour être un précurseur de la cuisine moléculaire. Alors, c'est quoi la cuisine moléculaire?
La cuisine moléculaire, c'est rien que le mot nous dérange déjà entre nous, là. Donc, la cuisine moléculaire...
Disons qu'on se demande si ça se mange.
Mais c'est... Tout juste. Je pense que la cuisine moléculaire, c'est un outil de compréhension. Et grand bien nous en a pris, parce qu'à une époque, j'étais avec David Edwards, qui était un chercheur de Harvard. On avait créé le Food Lab, ce qui m'a permis de rencontrer Raphaël Aumont et d'écrire un livre qui s'appelait Planète Marx. Et on s'est rencontré avec Raphaël sur ce sujet. Et finalement, Sylvie Rotaillot nous a proposé de venir à Paris-Saclay. On a créé le premier... laboratoire de recherche et développement qui est devenu une chaire universitaire aujourd'hui sur la cuisine du futur. Qu'est-ce que c'est que la gastronomie moléculaire? C'est incompréhension des produits que l'on transforme. Arrêter de croire aux blagues qui sont inopérantes dans la cuisine. Donc ça fait qu'à un moment donné, vous avez besoin d'une validation de la science pour voir si vous allez dans
c'est
le mur.
De la chimie,
ou
c'est
pas.
De la physique, c'est
de la physique. Plutôt que de la chimie, c'est de la physique ou chimie des produits. Donc c'est leur transformation. C'est inintéressant dans un restaurant. Parce que la science éclaire le sensible, éclaire l'humain, éclaire le fantasme. On préfère croire que la tarte aux pommes de la grand-mère est meilleure et que parce qu'on met du gros sel dans l'eau des œufs durs, on les épluchera mieux. Ça ne sert à rien, mais en tout cas, ça nous fait plaisir d'y croire. Alors, il ne faut pas changer ça. Donc, on a changé un peu notre modèle et on s'est dit, c'est quoi la gastronomie du futur? Son impact social, son impact environnemental. Son impact social, avec quelle planète? Quelle eau? Quel bétail? Quel produit? Quel ingrédient? Ça, c'était intéressant et c'est tout le travail de cette chaire universitaire et de la travail de la cuisine moléculaire. Ce qui, pour moi, en tant qu'artisan, m'a donné énormément de connaissances parce que c'est un cerveau collectif, ce CEFIC. On a bien sûr Raphaël Aumont, qui est le physico-chimiste, qui est responsable de cette chaire universitaire, mais nous avons d'autres universitaires et d'autres médecins qui travaillent sur cette alimentation du futur. Parce que si on ne réfléchit pas sur l'alimentation du futur, alors on ne réfléchit pas sur notre agriculture. Quel modèle architectural d'hôtel, quel modèle de restauration, parce que les ingrédients qui vont coûter les plus chers ne seront pas forcément des ingrédients à manger, ce sera des ingrédients de transformation. Le prix de l'électricité et le prix de l'eau seront déterminants pour voir quelle cuisine on aura dans le futur. Donc gastronomie moléculaire, c'est un outil de compréhension, c'est un outil scientifique au service du bon, du goût et de la population.
Alors, on va passer à une autre de tes passions.
Pas de souci.
Les arts martiaux.
Oui.
Alors, tu as justement cette passion-là, aussi pour les arts zen, le tai chi, yoga, méditation. Et c'est Rebecca qui va nous en parler.
Et ça fait le lien avec le management, justement. 3 mois avant l'ouverture du mandarin oriental, vous avez surpris votre équipe, y compris votre directeur général. Vous les avez initiés au tai chi et au taiko, une façon d'amener toute l'équipe vers les fondements du judo, vers la voie de l'adaptabilité indispensable dans un palace où le niveau d'exigence est très élevé. Vous avez mis en place 2 cours, l'un de tai chi chuan, une gymnastique chinoise au mouvement lent, et l'autre, un cours de taiko, un art japonais du tambour qui nécessite une coordination corporelle parfaite. Ces méthodes inspirées des arts martiaux sont connues pour favoriser l'adaptabilité, la qualité cruciale dans un palace où les normes de qualité sont très élevées. Cela parce que pour vous, c'est un métier où il faut répondre à toutes les éventualités et à toutes les demandes, même les plus impossibles, sans jamais dire non, mais en guidant le client vers d'autres solutions.
Oui. Non, mais c'est très juste ce que vous venez d'évoquer. C'est pas tant de... D'abord, l'art martial, au sens large du terme, je pourrais le prendre de l'équitation jusqu'au yoga, en passant par le karaté, le judo, le jujitsu, ce que vous voulez. C'est surtout d'apprendre à mettre du temps entre l'émotion et l'action. Et bien souvent, nos vies sont régies par trop d'émotions et pas assez de temps de se poser. On veut être héroïque, or que bien souvent, il faudrait être stratégique. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, moi, dans ma propre vie. Mais j'aime le partager parce que ça évite... pas mal d'écueils. Et je dis souvent à mes jeunes collaborateurs, anticipez beaucoup pour improviser tout le temps. Notre société qui vont être une multitude de crises, et on le voit bien, l'actualité nous témoigne de ça, hélas, eh bien, il faut se préparer physiquement, intellectuellement, dans une verticalité, pour être vertical dans la rectitude de nos choix, mais avoir des fois des formes d'horizontalité pour être... dans cette verticalité, mais en même temps être solitaire dans notre verticalité et solidaire des mouvements qu'on doit pouvoir engager, notamment dans l'associatif. Et le sport construit beaucoup là-dessus, cette capacité de rester prêt, disponible, zanshin, disent les Japonais, disponible, eh bien, parce qu'on a beaucoup anticipé, on s'est préparé physiquement et intellectuellement, donc on peut s'adapter à des situations de crise qui sont des fois inévitables. On a eu la crise sanitaire, mais vous voyez bien que la guerre en Europe, une guerre qui se déclenche au Moyen-Orient, enfin tout ça fragilise les relations internationales, fragilise le business, va créer des opportunités, mais aussi va créer des écueils. Il faut savoir vivre ces moments de crise, ces moments d'école du deuil, et en même temps de se dire... Bon, ben, j'y étais prêt, je peux l'affronter. Tant que je suis debout et que je suis vivant, j'avance.
C'est le moment pour nous de passer à la suite. Ouais. Alors, c'est l'heure d'aborder ton actualité, tes actualités. Et c'est Rebecca encore aux manettes qui va nous expliquer tout cela.
Encore une nouvelle corde à votre arc en tant que président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie. Vous avez conçu une plateforme, Mon CV Num, une solution numérique pour enrayer la crise de l'emploi dans l'hôtellerie-restauration. L'objectif, résoudre le grand défi du recrutement de collaborateurs, notamment dans l'hôtellerie-restauration, mais pas que. Mon CV Num est disponible en ligne. Vous l'avez conçu avec... Pôle emploi et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Il s'agit d'un point de rencontre entre chefs d'entreprise et demandeurs d'emploi. Il s'adresse à tout le monde ayant un diplôme en hôtellerie-restauration ou non. Son utilisation est simple. Tous les demandeurs d'emploi peuvent générer leur CV sous la forme d'un QR code pour le rendre visible à tous les recruteurs qui, eux, présentent leurs établissements. Une solution qui répond aussi aux personnes sans diplôme qui ne se sentent pas éligibles alors qu'elles peuvent l'être.
C'est une manière de participer au futur de l'emploi pour toi, dans ton domaine.
Oui, d'abord, c'est une manière de participer au futur de l'emploi. C'est une manière de se dire, mais venez, vous avez des diplômes, tant mieux, c'est bien. Vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous avez forcément des compétences que l'on sera capable d'évaluer avec vous et de vous faire monter dans ces compétences pour que vous réussissiez. Et puis de dire, la société a changé. C'est-à-dire qu'on a encore une partie de la société qui est dans le 20e siècle et une autre qui est dans le 21e. Donc, c'est-à-dire que la relation au travail a complètement évolué.
Eh bien, ce sera le mot de la fin sur cette partie-là. Nous allons transitionner directement sur la partie quiz. C'est le Quizella.
Très bien, Quizella.
Bienvenue Thierry dans le Quizella, dont voici les règles. Je te pose plein de questions et tu dois répondre en quelques secondes.
D'accord.
C'est bon, tu es prêt, c'est parti. On est parti. Qui est pour toi le ou la chef qui t'inspire le plus ?
Le chef qui m'inspire le plus, c'est Jacques Maximin.
Tu préférerais manger chez Marx ou travailler chez Marx ?
Manger chez Marx.
Si tu ne devais manger qu'un seul plat pour le restant de tes jours, je sais, c'est pas facile, ce serait lequel ?
Très facile, c'est du pain.
Du pain.
Du pain, c'est le meilleur symbole de la gastronomie, de l'eau, de la farine et du talent.
Le plat que tout le monde devrait savoir faire ?
Des pâtes.
Ah, ça va, c'est bon, je sais faire. 3 étoiles Michelin ou 3 étoiles sur le maillot de France ?
3 étoiles Michelin.
Ah, les deux sont importants.
Oui, mais je n'ai pas forcément un focus sur le football. Mais par contre, sur le rugby, oui, une étoile sur le maillot de l'équipe de France de rugby, ça me ferait plaisir. Mais quand même, l'étoile Michelin permettrait de continuer mes activités dans l'impact social, et ça me conviendrait bien.
Le pays qui t'a le plus inspiré en termes de cuisine ?
Japon.
La principale vertu du sport ?
Faire pour apprendre.
Et celle de la méditation ?
Mettre du temps entre l'émotion et l'action.
Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait jamais donné ?
Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, c'est simple, c'est pas ton employeur qui protège ton emploi, c'est ta curiosité.
Et quel est le conseil que tu donnes, du coup, aux plus jeunes que tu rencontres à travers tes formations ?
C'est pas ton employeur qui protège ton emploi, c'est ta curiosité.
Très bien, au moins c'est cohérent. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains sur Terre étaient en train de regarder cette émission Les Pionniers, ce qui n'est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu voudrais leur adresser ?
Pensez à l'impact social et environnemental de ce que vous faites.
Alors merci Thierry de t'être prêté au Quizella. Avant de se quitter, eh bien, nous allons écouter cette chanson que tu as choisie.
Boulevard Elvis.
C'est dit.
Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette chanson ?
Tout, Belleville, mon père, ma mère, mon grand-père, toutes les communautés qui étaient à Belleville, et les fortifs, parce qu'il n'y avait rien été construit sur les fortifs du Pré-Saint-Gervais, et c'était notre campagne à nous, la campagne à Paris, quoi. Et quand Eddy parle de ça, bah, il parle un peu de nos racines. Mais après, nos racines, on les a bougées. Ouais, est-ce qu'elles sont au Japon maintenant ? Est-ce qu'elles sont aux États-Unis chez mes enfants ? Est-ce qu'elles sont à Paris ? Mais j'ai encore un petit pincement au cœur quand je passe à Belleville et à Ménilmontant.
Nashville ou Belleville, d'Eddy Mitchell. Merci beaucoup, c'est la fin de ce tête-à-tête, Thierry.
Merci
de nous avoir partagé ton monde, tes émotions, tes réflexions, tes apprentissages. On en sait beaucoup plus sur toi et on en repart avec beaucoup de dynamisme et d'optimisme. Merci Thierry.
Merci.
BFM Business présente Les Pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
Les Pionniers, on continue avec le pitch tout de suite en plateau. Aujourd'hui avec Rebecca, nous sommes avec Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch, notre coach en pitch. Bonjour Eric.
Bonjour.
Et nous sommes avec notre nouvel expert marché, Pierre-Éric Lebovici, cofondateur et partenaire du fonds d'investissement Daphni. Bonjour Pierre-Éric.
Bonjour Fred, bonjour Rebecca.
Alors, chaque semaine, vous le savez, les pitchers viennent nous présenter leurs projets, leurs activités. Vous aussi, vous pouvez candidater. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran ou bien d'aller tout simplement candidater sur le site de l'émission sur BFM Business.
Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
aujourd'hui, nous recevons Carla Sarantelis. Bonjour Carla, bienvenue sur le plateau des Pionniers. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes CEO de Trip Bike, un vélo avec assistance électrique hors du commun. Alors, je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif au produit, Eric à votre pitch et Pierre-Éric à votre secteur, au marché. Nous les laisserons ensuite délibérer pour noter votre prestation de 1 à 10. Tenez-vous prête, ça va être à vous. On va lancer le chrono. C'est parti, top chrono.
Bonjour, je suis la CEO de Trip Bike. Je m'appelle Carla Sarantelis et je suis la fondatrice de la marque Aibu. Aibu, qu'est-ce que c'est ? C'est un vélo dont le cadre est en bambou. Ce sont des vélos qui sont développés avec de fortes valeurs. D'abord, des vélos responsables, éco-responsables, parce que les cadres sont en bambou et le bambou a des vertus mécaniques et une empreinte carbone complètement neutre. D'ailleurs, nous avons développé un brevet par rapport à ce vélo. Ensuite, ce sont des vélos éthiques à 100% fabriqués en France par des personnes en situation de réinsertion de handicap. Donc, nous travaillons avec plusieurs associations à ce sujet-là. Et Aibu, c'est également des vélos performants, puisqu'ils ont été récompensés par deux fois cette année au concours Lépine pour l'éco-transition et pour la mobilité, le transport. Aibu, en plus de ça, c'est un vélo qui a pas mal de spécificités, notamment il est ultra léger, il fait moins de 15 kg dans sa version électrique par rapport à des vélos qui, eux, plutôt classiques, pèsent 15 à 10 kg de plus. Donc c'est un vélo performant également puisqu'on a une autonomie avec la batterie qui est entre 60 et 100 km d'autonomie. Et c'est un vélo connecté, IoT, puisqu'il nous a permis d'aller faire le CES de Las Vegas et de participer à Vivatech encore cette année. Voilà.
Merci Carla. Carla, pour Trip Bike, est-ce que notre jury a des questions, des points à éclaircir avant de délibérer ?
Alors moi, je vais commencer par une question toute simple. Est-ce que c'est vraiment solide ? Parce que, enfin voilà, on se dit, si on s'embête à construire des vélos, parfois avec des matériaux quand même assez résistants, c'est aussi parce que c'est important, ça peut aller potentiellement assez vite un vélo, et puis il faut que ce soit résistant. Alors, c'est solide ?
Alors, ils sont hyper solides. Ils ont été crash-testés au CRIT de Châtellerault, qui fait pas mal de crash-tests, et on est normé ISO 15194. Donc, hyper solides. Ils ont été testés avec des marteaux, enfin, un tas de choses de torture pour voir leur solidité. Et ils sont, oui, testés, approuvés et éligibles à toutes les primes qui existent en France pour l'achat d'un vélo à assistance électrique.
Bon, bah, c'est bon pour laisser notre jury délibérer. On revient juste après. Carla, vous venez de pêcher devant notre jury. Comment vous vous êtes sentie ? Est-ce que vous êtes contente de vous ?
Alors là, je me sens plutôt soulagée. Contente de moi, je ne sais pas, parce que je ne suis jamais extraordinaire quand je fais du pitch. Mais en fait, c'est toujours un challenge de me retrouver comme ça sur un plateau avec des personnes aussi illustres et sympathiques. Mais ils ont été très, très bienveillants et ça m'a... Enfin, ils m'ont beaucoup aidé, je pense, pour pouvoir sortir ce que j'avais à sortir, quoi. Surtout dans les questions.
Est-ce que vous appréhendez les notes ? Si oui, est-ce qu'il y a un des secteurs qui vous appréhende le plus ?
Ah ben, je pense que c'est au début, quand je dois introduire la société, dire qui je suis, etc. J'aime pas trop parler de moi, donc...
Le pitch.
Le pitch, il est difficile pour une personne comme moi qui est dans le faire et pas dans le dire. Voilà.
Bon, ben, c'est parti pour découvrir les fameuses notes. On retourne en plateau. De retour en plateau pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 8 pour le produit pour Fred, un 8 pour Pierre-Éric pour le marché. Et un point d'interrogation pour Éric pour le pitch. Éric, explique-nous pourquoi ce point d'interrogation.
Oui, c'est une petite innovation que j'introduis dans cette émission. Je ne pouvais pas te noter, Carla, parce que tu n'as pas fait un pitch. Donc, si je te mettais une note, elle était nulle. Et j'avais pas le cœur à mettre une note nulle pour un pitch qui n'existe pas. Parce que, en réalité, ce que tu as fait, c'est une fiche technique. Tu as fait un truc point par point, tu nous as tout expliqué, mais il n'y a pas de contextualisation, tu n'as pas mis sous tension l'enjeu. Et finalement, honnêtement, le truc le plus intéressant, c'est grâce à mon camarade Pierre-Éric, ici présent, c'est qu'il a commencé à te poser une ou deux questions et hop! L'histoire, le grand-père qui a inventé, ou le, je sais plus quoi, l'arrière-grand-père qui a inventé la voiture électrique, et la cafetière et le machin. Et soudain, ça aurait pu permettre d'arriver et de dire qu'il n'était pas possible que tu fasses autre chose de ta vie aujourd'hui. C'était ton chemin, c'était ton équation. Tout ce que tu as fait, l'Asie, l'innovation, la création, la mode, les ONG, tout ça, ça t'amenait, ça te faisait venir aujourd'hui dans ce projet qui est le projet de ta vie. Et là, waouh, tu vois, c'était complètement différent. Après, tu me rajoutais un peu l'enjeu qu'adresse le vélo, parce qu'il aide les gens, mais aussi il répond à une différenciation par rapport à ce qui existe.
Bien sûr.
Et tout allait bien. Mmh. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'entrée, d'accord ? Il n'y a pas une entrée, il n'y a pas une mise sous tension de l'enjeu, il n'y a pas d'où vient ce projet, et il n'y a pas non plus une conclusion. Il y a des points les uns après les autres, mais c'est parce que tu ne sais pas faire de pitch, c'est pas grave. On va se revoir, il n'y a pas de problème. Parce que sinon, on a envie de te donner tout. C'est génial ton projet, formidable. Merci pour ça.
Pierre-Éric, un 8 pour le
alors,
secteur
j'ai
marché.
J'ai mis un 8 alors, en faisant plusieurs hypothèses. J'ai fait l'hypothèse que tu adressais le marché de, plutôt du haut segment de marché,
premium,
on va dire,
ouais.
Plutôt le luxe.
Ouais.
J'ai fait l'hypothèse que tu étais sur le marché de l'éco-transition, comme tu l'as décrit.
Exactement.
Et puis, j'ai beaucoup aimé le fait que tu adresses le marché de la mobilité douce. Donc c'est pour ça que mon 8, il est sur ces trois segments de marché. Et j'ai pas de doute qu'il existe, qu'il est massif. Comme tu es sur du premium, ça sera des prix plutôt très élevés. Et puis pour l'anecdote, comme mon associé développe aussi un vélo plutôt haut de gamme qui s'appelle Angel, j'aurais quand même eu du mal à mettre une mauvaise note. Mais je l'ai fait avec conviction. Je suis convaincu qu'il y a un marché, parce que toi, autant Marc, il est sur le très haut de gamme et le produit de luxe, toi, tu es sur le vélo.
Éco-responsable.
Et donc, encore une fois, je pense qu'il y a du potentiel. Sur le pricing, je pense que vous avez fait une étude et vous êtes à peu près dans la moyenne.
Pour terminer, Fred, le produit, un 8 aussi ?
Oui, je trouve que le produit est très beau. Bon, après, j'ai envie de dire, on sait ce que c'est qu'un vélo, donc c'est un produit un peu compréhensible, assez facilement. Et même, on sait même ce que c'est qu'un vélo électrique aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça aide beaucoup la compréhension. D'ailleurs, heureusement, parce qu'effectivement, pour rejoindre le point du pitch, je ne sais pas comment tu aurais fait si tu avais eu un produit compliqué à expliquer. Là, je trouve que c'est un vélo, donc on l'a tous vu, on a compris. Décrire une interface d'API compliquée sur une base de données qui fait de la synchronisation entre je ne sais quoi et autre chose, ça aurait été plus compliqué si tu n'avais pas eu l'objet. Mais donc, il est très beau, il est très attirant, il est pensé moderne, c'est-à-dire qu'à la fois en termes de fonctionnalité, d'efficacité, mais aussi de transition écologique pour être attractif. Donc c'est un très beau produit. Après, il reste tout l'enjeu des volumes. Aujourd'hui, tu en as vendu combien
on démarre seulement la commercialisation, donc on en a vendu une centaine, pas plus.
D'accord, c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal. Mais
après, il faut trouver les cadeaux pour les
véhicules. Pour les cadeaux de Noël, pensez à nous, quoi.
Ah, d'accord. C'est un joli Noël.
C'est un joli cadeau de Noël.
Oui. Mais. Sûr. On peut prendre le casque.
Mais il y en avait qui voulaient partir avec. Hein, donc là.
Ah, il y a un Père Noël.
Interlocuteur.
Bravo et merci Carla Sarantelis d'avoir été avec nous aujourd'hui, CEO de Trip Bike.
Tout à fait. La marque Aibu. Et le casque Elbow qui sortira, on l'espère,
et le casque
prochainement.
Qui va avec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Très bonne
soirée. L'heure d'accueillir.
Merci Carla.
Deuxième pitcher du jour, Eric Ganassia, bonjour. Bienvenue sur le plateau des pionniers. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Hitshot, la première messagerie musicale. Donc, je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred, Eric et Pierre-Éric qui seront chacun attentifs à des points différents. Nous laisserons ensuite le jury délibérer, puis noter votre prestation de 1 à 10. Tenez-vous prêts, ça va être à vous. Top chrono, c'est parti.
Bonjour, je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être là parce que votre titre est très important pour nous dans la mesure où Hitshot est la première messagerie musicale qui vous permet d'échanger en musique. C'est-à-dire, aujourd'hui, toutes les messageries se ressemblent, elles sont identiques. Avec Hitshot, on ramène de la vie grâce à un nouveau format qui s'appelle Hitshot. C'est un format qui est composé d'une citation musicale, de couleurs qui rappellent des thèmes, les thèmes de l'humour et de l'humeur, pardon, et en même temps de l'humour. Et toute la possibilité est là. C'est-à-dire, par exemple, c'est un exemple. Vous allez rentrer à la maison, vous allez envoyer un message. T'as besoin de rien. Il ou elle va vous répondre. Envie de toi, besoin de rien. Vous attendez un appel de votre avocat. Je vous assure que rien n'est plus fort que de lui envoyer téléphone-moi. Hein. Ou alors, s'il vous répond pas, bah, vous lui renvoyez téléphone-moi et rassure-moi. Et je peux vous assurer qu'il y aura des réactions. Voilà, Hitchcock et la force d'Hitchcock, c'est basé sur l'émotion. Vous savez ce que disait Kant ? Il disait que la musique, c'est la langue internationale des émotions. Avec Hitchcock, vous allez impacter votre message. Avec Hitchcock, notre format permet de donner du son, de la musique à vos messages, de la force à votre humeur. Et c'est là la force d'Hitchcock. Hitchcock, nous sommes les premiers. C'est pour ça que le mot pionnier m'intéressait dans la mesure où on est français. C'est la première messagerie musicale au monde. Vous savez, il y a un chanteur formidable d'un groupe incroyable qui s'appelle toujours U2. Il a dit une chose, Bono, la musique, le monde est séparé en deux, excusez-moi. Ceux qui chantent et ceux qui regardent les autres chanter. Et il a raison. Donc notre cible est large, au niveau aussi même géographique. On n'arrête pas. Vous vous rappelez ce fameux slogan de Tintin, 7 à 77 ans ? Eh ben voilà, la musique n'a pas de frontières. Grâce à Hitchcock et grâce à d'autres formats, on va pouvoir aussi communiquer les musiques entre les générations.
Alors, l'ambition est tellement large que vous avez dépassé le chrono.
Merci, Eric. On va rajouter à ça une petite démonstration vidéo de Hitchcock. C'est très rapide, ça dure 20 secondes.
Cette fois, ne m'en veux pas. Si j'arrive en retard.
Désolé, mais en vrai, je m'en tape de base. Je voulais pas venir.
Voilà une démonstration bien complète de Hitchcock. Est-ce que notre jury a des points à éclaircir ? Pierre-Éric, une question avant la délibération ?
Quand on s'appelle Eric, on se lève un matin et on se dit, tiens, je vais développer une application de messages audio, musicaux. Et pour l'anecdote, vous ne voulez pas m'entendre chanter, en fait. Donc moi, je fais partie de la deuxième catégorie.
Très bien. Alors, je vais vous dire, ça m'est arrivé au cours d'un... Je travaillais sur un spectacle pour le Stade de France. Et tout d'un coup, j'avais en face de moi un collaborateur dont le portable n'arrêtait pas de buzzer. Au bout du sixième fois, j'ai dit « Est-ce que je peux t'aider ?» Et il m'a répondu « Écoute, j'ai fait une bêtise avec ma nana, je ne sais plus comment lui dire « Excuse-moi ». Et là, j'ai eu un flash, je lui ai dit « Envoie-lui, va sur YouTube et envoie-lui « Sorry Seems to Be » The Hard Earth's World » de Elton John. Il l'a fait, pour la petite histoire, ils sont mariés 8 mois après, sauf que moi, j'étais plus du tout au spectacle. Je me suis envoyé des messages musicaux dans la tête. Mais ce que je voulais surtout vous répondre, c'est que je ne me suis pas levé une idée comme ça. Je viens de l'entertainment, je viens de la musique, j'étais producteur musical de quelques chansons que vous avez sûrement chanté, en tout cas dansé, telles que Saga Africa, Comme un ouragan, On va s'aimer. C'est tout ça qui m'a porté. Et un matin, je me suis réveillé quand il y a eu vous savez, la bombe du piratage où on a perdu énormément de droits. Je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, bien sûr, je me suis levé un matin, mais ça a été porté par toute une histoire.
Et justement, comme on parle des droits, vous êtes juste sur des extraits, vous devez reverser...
Alors, absolument. Comme vous l'avez vu, ce sont des extraits musicaux. Hitchcock, c'est entre 2 et 15, 17 secondes. On a des Hitchcock sans monétisation, c'est-à-dire sont des Hitchcock gratuits. Mm-hmm. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est en peer-to-peer. Et en même temps, on correspond à deux problématiques. L'exemption de droit, elle est citation... Mmh. court, et à partir du moment où on respecte le droit moral quand on met les paroles et l'auteur. Voilà. Maintenant, on a évidemment un modèle entre guillemets publicitaire, parce que Hitchcock n'est pas qu'une messagerie, c'est bien plus que ça, puisque ça va devenir une plateforme communautaire et émotionnelle dans laquelle vous allez pouvoir choisir le Hitchcock. Et surtout, la grande nouvelle là, depuis quelques semaines, c'est que vous allez pouvoir envoyer le Hitchcock sur toutes les messageries. Deuxième point, vous allez avoir, donc ça c'est le côté communautaire qui va nous permettre de grandir. Deuxième point, c'est aussi, vous allez pouvoir le créer. Vous n'avez pas dans notre base le Hitchcock, bah si vous l'avez dans votre bibliothèque musicale, vous allez pouvoir le faire. Et troisième et dernier point, qui nous a inspiré par le gaming, parce que quand vous regardez Hitchcock, vous allez voir les couleurs, l'humeur, c'est aussi, vous allez pouvoir aussi le customiser. Donc à partir de là, on a un business model, on s'est inspiré du gaming pour pouvoir donner un modèle publicitaire dans lequel, je le précise, je veux dire une chose, j'ai créé Hitchcock pour rendre à la musique ce qu'elle m'a apporté. Donc tout ce qui sera dans le modèle économique, les artistes, les ayants droit seront associés grâce à la blockchain.
Merci Eric pour toutes ces explications qui vont permettre à notre jury de délibérer. Venez avec moi, on revient tout de suite pour les notes.
Merci.
Comment vous vous êtes senti?
Bah, je me suis senti bien. C'est pas facile de vous raconter une histoire en fin de quelques minutes. J'ai vu que ça allait très très vite, je me suis pas aperçu. Donc j'espère qu'ils ont compris le pitch, comme vous dites. Nous, c'est une histoire qu'on raconte. Donc je me suis senti bien et je pense qu'ils l'ont compris. Et on a vu tout de suite les réactions. C'est formidable, c'est bien, mais en même temps, évidemment, c'est un vrai travail. Mais ceci dit, on est là aussi pour faire des shots. Et j'espère qu'ils ont posé d'autres questions. Il y a une raison pour laquelle je suis venu à BFM Business, qui est on cherche des fonds. Et en même temps, on veut que les gens téléchargent, mais en même temps, on cherche des fonds, puisqu'on a déjà levé 1 million d'euros.
Et puis, les quelques questions du jury vont permettre d'éclaircir aussi peut-être des choses pour tout le monde. Est-ce que vous apprendez les notes?
Pas du tout. Pas du tout. L'émotion, il n'y a pas besoin de notes. Pour la ressentir, vous la vivez ou pas. Donc, je n'ai pas de problème de notes. J'espère qu'ils vont comprendre l'aspect émotionnel, parce que l'émotion, c'est la nouvelle donne.
Bon, bah, c'est parti. Allons découvrir les retours de notre jury. De retour en plateau pour découvrir les notes de notre jury de 1 à 10. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 6 pour Fred pour la catégorie produit, un 6 également pour Pierre-Éric pour le marché et un 7 pour Éric pour le pitch. Éric, est-ce que tu peux commencer à nous expliquer ton 7?
Éric,
parle. Non, je dis Éric. Bon, c'est... Oui. Éric, j'ai pas noté ton pitch parce que tu n'as pas de pitch. C'est toi le pitch. Donc, en réalité, c'était absolument pas structuré. Tu as l'habitude de raconter des histoires. Tu es très bon à ça depuis des années. Et donc, c'est ce que tu nous as fait. Donc, j'ai mis 7. Pourquoi? Parce que j'ai adoré ton enthousiasme. J'ai adoré la façon dont tu incarnes les choses, dont tu es investi et engagé. Et je pense que tout le monde derrière l'écran l'a apprécié également. Donc, quand je mets 7, je ne mets pas 7 au pitch, je mets 7 à Eric. La question après, c'est comment est-ce que ça aurait pu devenir un pitch, puisque c'est ce qu'on me demande humblement de faire, si on l'avait un peu structuré, si on ne s'était pas contenté de dire ce que c'était, et si tu n'avais pas mis trop d'éléments. C'est une chouchouka, ton histoire. C'est-à-dire, il y en a trop dans l'assiette, tu vois. Il y a Kant, il y a Bono, il y a trop de monde dans ton pitch. Il faut qu'il y ait moins de choses. Donc, encore une fois, merci à mon ami Pierre-Éric. Pierre-Éric qui te demande d'où ça vient, parce qu'en réalité, ton pitch demain, si tu as envie que ça soit ça, ça pourrait être exactement ce que tu as répondu à Pierre-Éric. Tu commences par une anecdote, parce que tu nous as donné des exemples, mais tu sais quoi, ils arrivaient n'importe comment. Tu commences par l'anecdote au Stade de France, de ton assistant, etc., etc., et soudain, on comprend tout, et en plus, on comprend le sens. Tu continues. Tu choisis si c'est Bono, si c'est Kant, parce que ça fait trop, du coup on ne se souvient plus, ou Jacques Brel. Et tu finis en conclusion avec dernière information, 8 mois après, ils étaient mariés. Et l'histoire est terminée et elle se finit bien. Voilà ce que je pouvais te proposer.
Pierre-Éric, tu as mis un 6 pour le marché, pour le secteur de Hitshot. Ton retour?
Déjà, j'ai mis un 6 par rapport aux informations dont je disposais. Donc, ce serait bien présomptueux de mettre une note. Et ce qui est remarquable, c'est d'être entrepreneur, audacieux, de prendre des risques et d'être courageux. Donc, je mettrai d'abord un 10. Et après, sur le marché, par rapport aux éléments dont on dispose, un 6. Et le 6, il est plus basé sur quelle est la concurrence. Est-ce que tu vas simplement être une fonctionnalité de toutes les messageries, parce que finalement aujourd'hui elles peuvent probablement l'intégrer sans trop de difficultés. Donc est-ce que le service est pérenne? Je ne sais pas, et peut-être tu as probablement toutes les réponses associées à ce type de question. Et ça me fait penser un peu au même, c'est-à-dire que tu proposes un service autour de la musique comme d'autres l'ont proposé autour de mini-séquences vidéo, c'est ce que tu disais Fred, d'images, d'émoticônes avant qu'il y ait des contenus plus sophistiqués. Et puis après il y a la question de la monétisation. Je ne sais pas si on peut, c'est une interrogation, je ne sais pas si on peut durablement monétiser ce type de service à grande échelle. Donc voilà, si je devais noter pour le produit, je pense qu'il y a un usage et on aura ce type de service sans aucun doute. Après, j'ai plus de questions sur la pérennité d'un projet entrepreneurial autour de ce sujet-là, avec la crainte principale que ce soit juste une fonctionnalité que plein d'autres gens que toutes les messageries vont offrir à un moment donné, quoi.
Un 6 pour le produit, Fred.
Oui, alors un 6 pour le produit, c'est pas tellement parce que comment dire, le produit ne serait pas utile. Je pense qu'il est utile et qu'il surtout il peut trouver un public et même un public extrêmement large. C'est simplement parce que je ne vois pas aujourd'hui le produit autonome. Bon, construire une messagerie, c'est aujourd'hui, comment dire, enfin, c'est aujourd'hui, ça l'a toujours été. C'est un produit extrêmement complexe, surtout si on veut qu'il soit extrêmement performant, à savoir temps réel. Parce qu'aujourd'hui, les messageries qui ne sont pas temps réel, elles...
Mais qui dit messagerie, dit instantanéité.
Oui, bien sûr. Enfin, techniquement, pour arriver à une messagerie instantanée qui gère des millions de gens, c'est dur. Et donc, ça coûte très cher. Donc, ça veut dire qu'il faut un vrai objectif ou un vrai modèle économique pour le financer, surtout quand on veut être autonome. C'est pour ça que j'ai mentionné à un moment de voir dans quelle mesure on peut imaginer que HitChat soit vraiment une feature qui se plug sur toutes les autres, qui se branche sur toutes les autres messageries, mais qui ne soit pas une messagerie en soi, parce que je pense que c'est un peu la face nord que de se dire d'aller recréer une énième messagerie, de demander à tout le monde de la télécharger, de communiquer par là pour pouvoir échanger en plus des petits textes ou des gifs, de la musique, parce qu'en plus ça va venir s'intégrer dans un tout, c'est-à-dire que il y a des fois on envoie juste un texte. Il y a des fois, on envoie un petit gif. Il y a des fois, on envoie une vidéo. Il y a des fois, on envoie encore autre chose. Et il y a des fois, on va envoyer un peu de musique. Mais donc, du coup, il faut que quand on développe une messagerie, avec la difficulté de la faire instantanée pour des millions de gens, il faut qu'en plus, elle ait toutes les fonctionnalités de toutes les autres messageries qui existent déjà. Sinon, on frustre les gens parce qu'ils vont dire « Ah ouais, mais je ne peux pas envoyer d'image avec ce truc-là. Je ne peux pas envoyer une vidéo. » Ah non, tu peux envoyer juste une musique. Donc voilà, je pense que construire un produit autonome, c'est assez compliqué. Et en revanche, il faut vraiment prendre la voie d'essayer de se mettre en plugin sur des messageries existantes. Et ensuite, évidemment, se pose la question, voilà, comme c'est un service consumer, donc avec des millions de gens, comment on se fait connaître? Alors, il y a l'aspect nouveauté et bouche à oreille et réseau qui joue, parce qu'on est sur un moyen de communication, mais quand même, la route est assez longue. Donc, je pense que la fonctionnalité a beaucoup d'avenir. Le chemin, il faut bien réfléchir ou re-réfléchir, et je ne pense pas que ce soit une application autonome de communication qui puisse le faire. Il faut prendre une route avec beaucoup de trafic qui nous emmène plus loin en s'appuyant sur des messageries existantes.
Bien.
Bravo et merci beaucoup Eric d'être venu pour nous parler de HitChat. Et merci à l'autre Eric d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Pierre-Eric également. On vous retrouve au plaisir dans une prochaine émission. Et si vous voulez venir pitcher, vous aussi, vous pouvez rendez-vous sur la page des pionniers sur le site de BFM Business, ou alors vous pouvez nous écrire à lespionniers@bfmbusiness.fr et un QR code est en train de s'afficher sur votre écran. C'est déjà la fin de cette émission, Fred.
Oui, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors évidemment, si vous voulez vous aussi soit candidater, soit aussi suggérer des pionniers pour la partie tête-à-tête de l'émission, et bien évidemment, c'est possible, toujours sur cette même page de l'émission. Et puis aussi, vous savez, maintenant, on diffuse aussi certaines coulisses sur nos réseaux Instagram et YouTube et LinkedIn. Et pour le mien, c'est Fred Mazzella, Fred Mazzella sur ces réseaux-là. Et vous aurez des informations additionnelles. Merci beaucoup.
Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.